La grande table. Olivia Jesbert.
Et lui, comment appréhende-t-il l'incertitude? Comment la définit-il? Essayiste, avocat franco-britannique, notamment auprès de la Cour pénale internationale. Il vit à Londres. Bonjour Philippe Sands.
Bonjour Olivia, je suis ravi d'être de retour avec vous.
Oui, nous aussi de vous entendre. Le Royaume-Uni, qui est aujourd'hui le pays le plus endeuillé d'Europe après un coup d'envoi tardif le 23 mars dernier, Boris Johnson vient de prolonger le confinement au moins jusqu'au 1er juin. Mais des assouplissements, un assouplissement des contraintes est attendu à partir de demain en direct de Londres. Donc vous allez pouvoir nous éclairer un peu sur la situation, sur la manière dont vous vivez les choses là-bas. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de Retour à Lemberg, prix spécial du jury du livre européen pour lequel on avait eu le plaisir de vous recevoir autour de notre grande table. Philippe Sand, qu'est-ce qui nous arrive? L'incertitude, ce temps de l'incertitude, comment vous le définissez, vous?
Pour moi, c'est beaucoup plus problématique que pour mon ami Hicham Mattar. Je crains l'incertitude, j'ai peur de l'incertitude. Ça n'ouvre pas l'imagination, ça ferme l'imagination, parce que on peut imaginer le pire. Et ça, je ne sais pas si c'est peut-être la conséquence d'être un enfant d'une réfugiée pour qui l'incertitude s'associe absolument avec la peur. Dès qu'on sait la direction qu'on prend, au moins pour moi, les choses s'améliorent. Et au Royaume-Uni en ce moment, on est submergé dans l'incertitude.
Pas de direction indiquée, pas de cap pour l'instant, mais est-ce qu'il reste des boussoles, des repères assez solides sur lesquels le pays ou vous-même, vous parvenez à vous appuyer? On pense évidemment au droit, parce que partout, il y a des restrictions des libertés publiques, des législations d'urgence qui sont mises en place. Est-ce que cela vous inquiète, cette dérogation, même pour état d'urgence sanitaire, au droit commun?
Il y a une certaine inquiétude, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe au Royaume-Uni qui est remarquable et les gens n'ont pas vraiment mis l'accent là-dessus. C'est que pour la première fois, le Premier ministre Boris Johnson n'est plus peut-être le Premier ministre du Royaume-Uni, mais Premier ministre de l'Angleterre. Pourquoi je dis ça? Parce que remarquablement, et c'est la première fois dans ma vie que ça se passe comme ça, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord vont prendre une direction différente. Le confinement va continuer comme il a été depuis déjà 6-7 semaines dans ces trois pays. Et c'est seulement en Angleterre qu'il y aura une toute petite ouverture. Alors là, on vit un moment assez dramatique.
Il y aura une ouverture et une prise de distance pour l'instant. Vous parlez de la voix qu'a donnée aussi le Premier ministre, qui est très critiquée par une partie de la presse, des intellectuels comme toujours, mais qui reste très populaire aujourd'hui. Vous, quelle confiance vous lui accordez?
Aucun. Je le connais depuis 30 ans. Il était marié pendant 30 ans avec une amie très proche à moi. Finalement, heureusement, elle l'a viré. Je connais cet homme. C'est un homme... C'est un narcissiste qui a besoin d'être aimé, qui aime gagner, mais qui ne sait pas ce que c'est de gouverner. Et là, on voit dans ses yeux, il a un peur. Il ne sait pas la direction qu'il prend. Et bien sûr, lui-même, il est fortement affaibli dans un sens physique parce qu'il a été atteint par le Covid-19. Et on peut comprendre que ça a eu un très grand effet sur lui.
Vous imaginez comment, vous, pour l'instant, la sortie de crise, on en est loin, mais est-ce que vous voyez déjà des premiers réflexes, des tendances au repli, ou est-ce qu'il y a une solidarité qui s'est quand même mise en place aussi en Angleterre?
Non, il y a une solidarité. Vous savez, chaque jeudi, on sort de chez nous, on se met devant notre appartement, devant notre maison, sur une terrasse ou sur un balcon ou je sais pas quoi, et on applaudit pour ceux qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et ça a créé, par exemple, dans notre rue, une sorte de solidarité très importante. Et ça se passe un peu partout en Angleterre. Mais on arrive à un moment où il y a absolument des différences qui commencent à se manifester, non seulement dans les quatre pays différents du Royaume-Uni, mais dans la société. Pour ceux qui ont moins, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'ils doivent retourner au travail, mais le gouvernement annonce hier, retournez au travail, mais prenez pas les transports publics. qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont voyager pour 10 kilomètres pour aller travailler, pour gagner leur fric? C'est un moment vraiment très difficile pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens.
En tout cas, le mot qui a été prononcé, c'est le « if it's safe », la question de la sécurité, y retourner si le sentiment de sécurité prédomine. Mais ce n'est pas toujours facile à évoluer, ça c'est sûr.
On revient à votre première question, l'incertitude. On ne sait rien, on ne sait rien, on ne connaît rien sur ce virus. C'est la vérité. Est-ce que c'est à 2 mètres qu'on doit avoir de distance? Ou une amie espagnole hier qui m'a dit non, en Espagne, si on court dans le parc, il faut être à 10 mètres. Et si on prend un vélo, il faut être à 20 mètres. Alors, c'est les petits points de détail qui ouvrent l'imagination et la peur, je pense.
Mmh. Qui sont pour vous aujourd'hui, Philippe Sands, les héros de cette crise?
C'est le monsieur qui livre nos lettres chaque matin, c'est celui qui nettoie la rue, c'est ceux qui travaillent dans les hôpitaux, c'est tous les gens qui sont le moins payés, le moins respectés dans un Royaume-Uni qui a monétarisé la vie et qui ne n'a donné aucune valeur à ces gens. Et là, on revient à un certain moment, je pense, où 40 ans d'une politique de Madame Thatcher et Ronald Reagan, je pense que ça, on arrive à un autre point. Il y aura peut-être une sorte de lumière qui va s'éclaircir, qui ouvrira la possibilité à une amélioration par la condition de la plupart des gens, je pense. J'espère, en tout cas.
Parce que depuis Margaret Thatcher, depuis les années 80, les services publics sont attaqués de toutes parts. Hein. Le système de santé britannique, l'hôpital public...
C'est hallucinant. Et ce qu'on apprend avec cette histoire, dans une sorte de solidarité sociale, c'est que c'est les gens qui sont les moins payés qui sont le plus important aujourd'hui. Et ça, on le ressent partout. Et ça crée une sorte de ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est plutôt un aspect positif.
Alors chaque soir à 20h, est-ce que vous êtes avec tous les Britanniques aux fenêtres pour applaudir ces soignants, ces infirmières, ces médecins qui se mobilisent?
Seulement chaque jeudi. Pour nous en Angleterre, c'est chaque jeudi. Je sais que ailleurs en France et en Espagne, c'est tous les jours. Pour les Britanniques, très pragmatiques, flegmatiques, c'est le jeudi soir à 20h. Et on applaudit tout le monde et on se met en solidarité. Et on fait aussi de la musique dans notre rue. On fait une fois par semaine un petit concert. Il y a des gens qui jouent des instruments différents. Et ça crée vraiment une atmosphère de solidarité. Je me répète, je sais, mais c'est important.
Alors aujourd'hui, nous sommes mardi et ce sera peut-être un jour qui fera exception parce qu'aujourd'hui, en Angleterre, c'est la journée internationale des infirmiers et des infirmières, l'International Nurses Day, avec une figure, celle d'une pionnière des soins infirmiers qui sera probablement mise en avant d'une manière ou d'une autre dans le pays, d'une icône. C'est le 200e anniversaire de...
C'est le 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. On l'appelle en anglais « the lady with the lamp », la dame avec la lampe, qui était une des premières infirmières et qui joue un rôle partout dans le monde. J'ai vu ce matin sur Internet, il fêtait Florence Nightingale en Chine, en Russie, en France, en Angleterre, en Afrique, un peu partout dans le monde. Alors c'est un symbole. C'est un symbole de ce qu'un être humain peut faire.
Et c'est la mise en avant d'une femme, d'une infirmière. Ce sont souvent les grands oubliés de l'histoire, hein. Ces héros ou héroïnes du quotidien, Philippe Sands. Il y a deux biographies qui sont sorties cette année, une très récemment en Angleterre, une biographie du général de Gaulle et une biographie de Churchill, deux livres assez importants. Mais on voit là hein, cet hommage aux grands hommes qui se retrouvent assez souvent aussi à travers la production éditoriale. Vous vous demandez ce qu'un Churchill aurait fait dans un moment comme celui-ci, dans un contexte comme celui-ci.
Je me demande plutôt ce qu'aurait fait Madame Churchill. Parce qu'une chose qu'on reconnaît, les pays où ça a l'air de marcher un peu mieux. Apparemment, c'est les pays où les leaders sont pas des hommes mais des femmes. Alors je regarde par exemple Nouvelle-Zélande, j'ai fait 2 ou 3 émissions de programme en Nouvelle-Zélande dans les dernières 2 ou 3 semaines et c'est complètement différent. On regarde aussi un peu ce qui se passe en Allemagne avec Angela Merkel et on a l'impression non seulement qu'il y a une solidarité mais une puissance du gouvernement qui maîtrise, qui contrôle. Et ça nous manque vraiment au Royaume-Uni, sauf qu'en Écosse, on a Madame Sturgeon. Et là aussi, ça a l'air d'aller. Alors, je pense qu'il y a un lien là entre le moment de fêter Florence Nightingale et d'imaginer une autre possibilité. Et franchement, avec un choix entre Winston Churchill ou Boris Johnson d'un part, ou Nicola Sturgeon, ou la première ministre de Nouvelle-Zélandaise, moi je choisis les deux femmes.
Pour l'instant, Philippe Sands, la crise remet en tout cas les États sur le devant de la scène. Les critiques fusent contre Bruxelles, son manque de réactivité depuis le début de la crise épidémique, mais aussi contre les organisations mondiales comme l'OMS, ouais, qui sont divisées, inaudibles. La mondialisation heureuse semble avoir quand même un peu fait son temps. Est-ce que l'épidémie est en train de donner raison à ceux qui prônent le retour des nations pour vous, Philippe Sands?
C'est une très grande question. Je pense qu'il y a 2 voies possibles. Une, c'est la voie du nationalisation, encore une fois, des nations, des pays. Mais de l'autre côté, il y a une sorte de reconnaissance, en fait, qu'on est tous ensemble dans cette histoire, qu'on soit russe ou islandais ou africain ou de l'Amérique du Sud, ça ne change rien. On est tous touchés de même façon. Et ça porte l'accent plutôt sur une sorte de solidarité et le rôle de l'Organisation mondiale de santé. Une chose où moi je m'interroge beaucoup, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier, surtout le 22 janvier, si on met l'accent sur le détail, dans cette réunion qui a décidé de pas déclarer une situation grave, mais d'attendre encore quelques jours, et avec ces quelques jours, on a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions? Une réunion, encore une fois, surtout d'hommes et pas de femmes.
Et il faut faire la lumière tout de suite sur ce qui s'est passé, ou vous faites partie de ceux qui disent, bon, pour l'instant, on met les critiques sous le couvercle, et puis on fera les comptes, les bilans un peu plus tard?
On a absolument besoin de comptes et de bilans, c'est sûr. Il y aura une enquête, il faut avoir une enquête internationale, mais je pense pas que c'est le bon moment. Je pense qu'il faut qu'on s'en sort. Je pense qu'on doit trouver des remèdes, on doit trouver un vaccin. Je pense, avant qu'on mette l'accent de qu'est-ce qui s'est passé exactement apparemment en Chine, qu'est-ce qui s'est passé à Genève, à l'OMC au mois de janvier, qu'est-ce qu'on fait ou pas fait les États, mais je pense que d'abord on doit s'en sortir. On doit quitter l'incertitude au moins à un certain degré.
Alors, c'est assez court, mais je vous propose d'écouter une voix que vous connaissez bien et les auditeurs de France Culture aussi, celle de la philosophe Hannah Arendt.
Everything which happens in thinking is
tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Voilà, les dangers nous guettent de tous les côtés. C'est vrai que c'est pas facile de garder son sens critique en action, de continuer à penser en ce moment, de ne pas se laisser endormir par nos peurs aussi. Comment vous faites, vous? Est-ce que vous parvenez, Philippe Sands, à rester en état de vigilance?
Non, mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a il y a une incertitude, il y a un certain peur, et on a surtout peur pour les parents, pour ceux qui sont plus âgés. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un certain calme. On a retrouvé le temps. Ça change tout. On prend plus de voyage, on reste chez nous, on se lève le matin, on va se balader dans le parc, on mange, on regarde un film. Et moi, tous les matins, j'ai un rythme où je travaille, j'écris. pour 3 ou 4 heures, j'essaye d'écrire 500 mots, 1000 mots, tous les jours. Et comme ça fait maintenant 2 mois, parce que moi j'ai suivi la confinement française, pas la confinement anglaise, parce que je ne faisais pas confiance à ce que faisait le gouvernement britannique. J'ai plus de confiance de ce qui se passe en France. Ça sera peut-être un peu bizarre pour vous, mais j'ai la double nationalité, alors je suis les deux pays. Et j'ai trouvé un rythme, et là, il y a une certaine ouverture d'esprit. J'écris, et ça marche plutôt bien.
Et quand vous écrivez, vous pensez ?
Oui, parce que pour chaque mot, on a des choix. On peut prendre une direction, on peut prendre une autre direction, et il y a une question de réfléchir là-dessus. Alors j'écris un peu de non-fiction, mais j'écris aussi sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'on prépare la 75e de la signature de Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945. Alors c'est le moment de réflexion et surtout de se poser la question, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis, les deux pays qui ont créé ce moment en 45, qu'est-ce qui est devenu à ces deux pays?
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette charte de San Francisco?
Ah ben ça a changé le monde complètement. Pour la première fois, un règle qui dit on n'a pas besoin d'utiliser la force militaire, l'invention des droits de l'homme et le décolonisation et l'autodétermination. Trois principes énormes qui ont changé complètement notre monde.
Voilà, 1945, à la sortie de la guerre, comme quoi des crises peuvent aussi sortir de grandes choses, des textes forts, des moments de rupture aussi pour nos sociétés, des temps de reconstruction, en espérant que celui-ci arrivera après le temps de l'incertitude. L'écrivain, essayiste, avocat franco-britannique Philip Sands est notre invité jusqu'à midi et demi. Et 1945, Philip Sands, c'est aussi la date de naissance du célèbre pianiste de jazz, Keith Jarrett. Il a 75 ans et pour fêter cet anniversaire, il a sorti avec sa maison de disque un morceau inédit que vous entendez là, Answer Me, en solo. Un morceau enregistré en 2016 à Budapest lors d'un concert. France Culture, midi 20.
France Culture. La grande table, Olivia Gesbert.
Apparaître en France, sorti le mois dernier en Angleterre, votre prochain livre, Philip Sands, The Great Line, la filière où vous retracez la fuite après-guerre d'un dignitaire nazi, Otto von Wächter, un personnage que vous avez déjà croisé à l'occasion de votre enquête, de vos recherches pour Retour à Lemberg. C'est une expérience de publier dans cette période de confinement, une expérience particulière quand même, non ?
C'est une expérience remarquable. On savait pas exactement quoi faire avec la maison d'édition anglaise Weidenfeld et Nicholson. Et finalement, ils ont décidé que pour les écrivains pour qui c'était un premier livre, ils allaient faire un délai pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais pour ceux qui ont déjà publié, qui sont un peu connus peut-être, ils allaient poursuivre la publication. Et c'est une expérience remarquable. Pas de visite de librairie, pas de festival, mais plein de événements sur l'internet, sur Zoom, sur Skype, sur tout ce genre de trucs. Et ce qui est remarquable, c'est que ça marche. J'ai fait des événements, je fais 2-3 événements par jour, et on est en contact avec des gens partout dans le monde. Et c'est très intime, c'est intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de trouver des nouveaux moyens de faire contact avec des lecteurs et d'être sur un écran où on voit 1000 personnes devant nous dans tous les pays du monde qui peuvent être en contact direct, vous parler, vous interroger, vous poser des questions, une question de Nouvelle-Zélande, une question de l'Argentine, une question des États-Unis. C'est une expérience merveilleuse, franchement, vraiment merveilleuse.
D'autant que les premières semaines, on a parlé que épidémie, que coronavirus, que Covid-19. C'est pas évident aussi de réouvrir notre attention, notre curiosité à d'autres sujets. Et c'est le cas dans ce livre. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous raconter l'histoire, en tout cas le parcours de ce dignitaire Otto von Wächter? Pourquoi vous l'avez suivi, lui, à la trace?
J'ai rencontré son fils, Horst, il y a 10 ans. Et 5 ans après qu'on s'est connus, il m'a donné tous les papiers de ses parents, de sa mère Charlotte et de son père Otto, qui était un grand nazi. Et j'ai découvert dans ces documents une histoire d'amour entre deux grands nazis. Et j'étais fasciné par ça. Aux premières périodes, les premiers 5 ans, j'ai mis l'accent plutôt en conversation avec Horst sur la période pendant la guerre, les atrocités qui ont été commises par son père. Mais la deuxième période, les derniers 5 ans, c'était plutôt ce qui s'est passé après la guerre. Il s'est évadé le 9 mai 45. Il est parti à la montagne en Autriche. Il a disparu. Il réapparaît 5 ans plus tard à Rome, dans un hôpital du Vatican, où il meurt. Et il était en train de trouver ce qui s'appelle en anglais « the rat line », la ligne des rats. Ça ne se traduit pas très bien en français. Et c'est la ligne qui mène entre l'Italie et l'Amérique du Sud, l'Argentine pour la plupart. Et la traduction en français qu'on a choisie, et là on vous l'annonce pour la première fois, parce qu'on vient de le décider hier, c'est la filière, un mot que j'aime beaucoup.
Ce sera le titre français de ce livre qui paraîtra à l'automne. Ce personnage, vous disiez avoir rencontré son fils, on le retrouve dans un documentaire de vous, hein, sorti en 2015, What Our Fathers Did, A Nazi Legacy, ouais. Un héritage nazi. Il était celui qui était dans la position du déni face à cet autre fils qui, lui, vivait encore dans la culpabilité des atrocités commises par son père. Vous êtes Philippe... Oui ?
Oui. Tout à fait, il y a deux fils avec des perspectives différentes. Il y a un fils, Niklas Frank, le fils de Hans Frank, qui déteste son père, et l'autre fils, Horst, qui adore son père. Et entre ces deux perspectives, il y a un trou, et c'est ce trou que j'examine dans le livre.
Oui, c'est un documentaire formidable, parce qu'on voit ces deux comportements extrêmement humains, ces deux réactions après-guerre des enfants, et la manière dont ils ont chacun cherché à accepter, à gérer cet héritage familial extrêmement lourd à porter, de manière très différente, que vous continuez donc d'explorer à travers ce nouveau livre, Philippe Sands. Vous êtes aussi le président de l'English Pen, qui promeut la liberté d'expression, le vice-président du Hey Digital Festival, dont la première édition 100% numérique pour ce festival littéraire et artistique va avoir lieu à partir du 18 mai, qui va rassembler des écrivains et des lecteurs en ligne avec un casting très alléchant, et notamment l'auteur star de La Servante Écarlate, Margaret Atwood, l'acteur Benedict Cumberbatch de la série Sherlock, l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi, l'économiste française Esther Duflo. Ils vont tous échanger sur une question importante aujourd'hui, avec un grand point d'interrogation. Imagine the world, c'est le thème que vous avez choisi. Voilà. Imagine le monde, le monde de demain. Voilà. Vous y échangerez notamment avec le comédien Stephen Fry et la romancière Elif Shafak. Alors, imagine le monde. Comment vous l'imaginez-vous, Philippe Sands? De quoi vous repartez pour repartir? Comment vous projetez?
Vous savez, Olivia, moi je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste pour les petits points de détail et pour les grands développements. Et je prends une perspective à long terme. Mais au long terme, je pense que ça ira. On trouvera des moyens de s'en sortir. On trouvera des moyens de coopérer, mais il y aura sûrement des moments difficiles. Pour moi, au niveau personnel, d'imaginer le monde, c'est d'imaginer les mois qui viennent. Est-ce que je serai enfermé dans ma vie londonienne pendant les 4-5 mois qui passent, ou est-ce que j'arriverai à m'évader et rentrer chez moi en France? Je suis ressortissant français, mais est-ce que j'ai le droit d'aller jusqu'au sud où on a notre maison? Et ça, personne est capable de me le dire. C'est une situation complètement ambiguë quand on est de double nationalité. C'est très bizarre.
Une liberté de circulation qui est restreinte pour tous aujourd'hui. C'est le propre de cette crise sanitaire aussi que de nous figer, de nous confiner chez nous. Et nous avons pour beaucoup d'entre nous déjà beaucoup de chance aussi dans ces environnements dans lesquels nous pouvons vivre.
Absolument. Non, ça, on est très reconnaissant. Alors, apparemment, j'ai le droit de rentrer en France parce que je suis de nationalité française. Mais si je fais ça en voiture, il y a la possibilité que je suis arrêté à Calais et je passe 4 mois à Calais, qui me paraît pas très atterrissant.
Comment se projeter? C'est le rôle des artistes, des écrivains, de faire œuvre d'imagination, Philippe Sands, dans cette période de crise comme c'est aujourd'hui. Énorme. On va avoir beaucoup besoin d'eux aussi pour imaginer ce monde de demain?
Absolument. Et on voit ça, bon, moi je le vois plutôt d'une perspective anglaise, mais on voit par exemple chaque jour maintenant, pour la première fois depuis je sais pas quand, la poésie à la radio. Chaque matin on a un poète. On lit. Moi je lis à chaque moment 3-4 livres. Je cherche des choses à regarder à la télévision, dans mon cinéma chez moi, à la télévision, sur l'internet. Et je pense que ce qui est important ici, c'est que les écrivains, les poètes, les auteurs, les chanteurs, les cinéastes nous donnent la possibilité d'imaginer et d'imaginer ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça, c'est ce qui, pour moi, est très intéressant. Et je pense qu'il y a des points de contact en ce moment. Ça m'a beaucoup touché, en fait, qu'il y a une communauté là qui est en liaison. Vous avez mentionné Hicham Mattar. J'ai vu il y a 3-4 semaines, j'ai fait une petite voyage en voiture pour lui livrer une bouteille de vin français qu'il avait vraiment envie de boire. Et c'était un moment délicieux. Et c'est ces petits moments qui changent vraiment notre perspective et qui ouvrent l'espoir.
Et qu'il va falloir se réapproprier. Voilà, merci beaucoup à vous, Philippe Sands, Hicham Mattar, qui était donc hier l'invité des Assises internationales du roman qui se tiennent actuellement, virtuellement, à la Villa Gilet. C'est tous les jours, villagilet.net, vous pouvez vous y rendre, revoir les vidéos, les tables rondes virtuelles de la veille, ou voir en direct celles d'aujourd'hui ou dans les prochains jours. Merci beaucoup à Auriane Delacroix, à Laura Dutèche-Pérez et à Henri Leblanc qui programme, prépare de chez eux cette émission avec l'aide précieuse de Philomène Villard et de Marceau Vassy. Encore merci à Benjamin Hu et à Irène De Bruyne de nous avoir accompagnés, à Inès De Bruyne de nous avoir accompagnés pour cette grande table culture. Je vous dis à demain.